Provocation. On peut accueillir les béatitudes comme cela. Sauf que celui qui les dit, Jésus, vit vraiment ce qu'il dit. Il n'y a pas le moindre écart entre sa parole et ce qu'il est. C'est le chemin de vérité authentique qui mène à Dieu. Car ne nous y trompons pas, Jésus ne fait pas la promotion de la pauvreté, même de cœur, puisque c'est de cette pauvreté qu'il s'agit. Jésus ne fait pas la promotion de la souffrance dans la persécution. Jésus ne dit pas qu'il faut rester zen face à tout ce qui est rude dans notre vie. En effet, si les pauvres de cœur, si ceux qui pleurent, si les affamés de justice, les persécutés sont déclarés heureux, c'est seulement en raison de la promesse divine qui leur est faite dans la seconde partie de chaque phrase. Oui, Jésus promet d'entrer et de vivre dans le royaume à tous ceux qui écoutent ces béatitudes. Oui, Jésus leur promet la consolation de voir Dieu. Mais s'il n'y avait que cela, si j'ose dire, on pourrait alors objecter que face au désarroi, Jésus promet quelque chose qui ressemble à des lendemains qui chantent. Bienheureux si maintenant vous mangez la soupe de cailloux, car demain vous aurez des brioches. Ce n'est pas du tout cela qui est dit, car il ne s'agit ni d'un discours social, pas plus que d'un programme politique, ni même une règle de vie morale. Dans les béatitudes, Jésus donne une parole de vie. Il donne un condensé de sa manière d'être. Jésus montre la ligne directrice de ceux qu'il a choisis et de ceux qu'il a vécu lui-même. Tout d'abord, « heureux » est proclamé 9 fois aux disciples et à nous-mêmes. « Heureux » est toujours premier. Cela doit donc bien, quelque part, se voir, s'entendre et se révéler dans nos vies. Ensuite, la tension entre la première et la seconde partie de chaque phrase laisse place à l'espérance. Dans ce passage, du présent au futur, tout ne vient pas tout de suite en un clic. Tout dans notre vie ne change pas d'un coup, comme on balaye d'un doigt l'écran de son smartphone. Puisque Jésus a été heureux en vivant tout cela dans son corps, parmi nous jusqu'à la croix, alors tous ceux qui le suivent pourront vivre cela à sa manière. Pour le dire autrement, porter sa croix est une manière authentique de vivre les béatitudes. Béatitude non pas orientée vers un bien-être, un accomplissement de soi, un idéal à atteindre, mais béatitude tournée vers le royaume de Dieu. Mystérieux royaume dont Jésus ne donne finalement jamais la définition et qu'il évoque par des images, des comparaisons, comme nous l'avons entendu il y a quelques jours. Ce royaume ne se définit pas dans un lieu ou un temps, contrairement à un projet politique. Ce royaume se définit d'abord comme une action, celle de régner, car Dieu règne en venant à la rencontre de sa création pour nous aimer au-delà de notre espérance. Et pour être admis dans ce royaume, point besoin d'un pédigré, d'un CV ou d'un certificat de moralité et bonnes actions. Demandez voir au bon larron ce qu'il en pense. La clé pour ouvrir la porte du royaume est d'abord une attitude spirituelle fondamentale. C'est la totale confiance en Dieu. La totale confiance de celui qui ne met pas son assurance en ses propres moyens. Et pour dire cela, la tradition hébraïque utilise l'image de ceux qui sont courbés, les Anaouim. Aujourd'hui, vous le savez, il y en a des courbés. Courbés sous la violence des tensions familiales, courbés d'épuisement professionnel, courbés sous l'oppression de l'envahisseur, courbés par le poids des derniers soins d'une queue de vie qui s'effiloche. Il m'arrive, comme vous, de fréquenter le confessionnal, tantôt avec et tantôt sans étole. Et s'il m'est absolument interdit de parler de ce que j'y entends lorsque je porte l'étole, rien ne m'empêche d'imaginer qu'un jour je puisse entendre ce que je n'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui, la parole de Sophonie qui vient d'être lue. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Voilà une clé pour bien comprendre et entendre les béatitudes. Qui donc prend pour abri le nom du Seigneur ? Un peuple pauvre et petit, dit le prophète. Pour un peuple nomade, l'abri est vital, même s'il y passe peu de temps. Aujourd'hui, pour moi, quel est ce lieu, physique ou spirituel, qui m'aide à vivre, même si je n'y passe pas toute ma journée ? Quel est mon abri ? Est-ce que je peux dire que ce n'est pas d'abord une propriété, que ce n'est pas d'abord un compte en banque, d'abord un savoir et une compétence, d'abord des aptitudes physiques, des qualités morales, des relations sociales? Est-ce que je peux dire que mon abri est d'abord le nom du Seigneur ? Les courbés, les Anaouim, eux le disent, et c'est pour cela que Jésus les proclame heureux. J'ai entendu récemment de la bouche d'un cardinal dire après le Notre Père, « Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. » C'est l'abri dont parle Sophonie. C'est l'abri que louent les psaumes. Le Seigneur, notre abri. Alors le Seigneur, notre béatitude, oui, ces béatitudes du sermon sur la montagne nous provoquent. Alors, que vais-je répondre ?